RDC saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet de la situation qui prévaut au Nord Kivu. Dans une correspondance du 14 juin dernier, le ministre des Affaires étrangères congolais indique, je cite, « Le territoire rwandais a servi à la préparation et à la perpétration d'une conspiration qui, après avoir commencé comme une simple mutinerie, évolue dangereusement vers un schéma de rupture de la paix entre deux pays de la région des Grands Lacs, remettant en cause les progrès accomplis en ce domaine depuis 2009. » Fin de citation. Quelle analyse faire de la démarche de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies? Pour en parler, nous recevons M. le ministre Lambert Mende, ministre des Médias, chargé de relations avec le Parlement et de l'initiation à la citoyenneté également, porte-parole du gouvernement. M. le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir.
Professeur Moïla Tshiembé, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur Moïla, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous avons annoncé la participation de l'honorable Jason Luneno, député national de l'opposition et cadre du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC. Il s'est excusé, il est empêché, il sera remplacé par le professeur Arsène Mouaka, député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Merci et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Le gouvernement congolais saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'implication du Rwanda dans le conflit armé dans l'est de la RDC. Dans une correspondance datée du 14 juin dernier, le ministre des Affaires étrangères de la RDC dénonce clairement l'implication de Kigali dans l'instabilité du Nord Kivu. Cette lettre a été transmise le 19 juin par le chargé des affaires de la RDC auprès de l'ONU, le jour même où la RDC et le Rwanda mettaient au clair cette situation ici à Kinshasa. D'autres précisions sur cette correspondance avec vous, Samuel Kachak.
Dans une correspondance datée du 14 juin dernier et adressée au président du Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, demande à cet organe de l'ONU, je cite, de condamner le soutien extérieur dont la rébellion du M23 bénéficie et tenir ceux qui les lui apportent solidairement responsables de tous les actes répréhensibles commis par ce mouvement. Fin de citation. Plus loin, le chef de la diplomatie congolaise poursuit dans sa correspondance, je cite, le territoire rwandais a servi à la préparation et à la perpétration d'une conspiration qui, après avoir commencé comme une simple mutinerie, évolue dangereusement vers un schéma de rupture de la paix entre deux pays de la région des Grands Lacs, remettant en cause les progrès accomplis en ce domaine depuis 2009. Fin de citation. Aussi, le gouvernement de la RDC demande instamment au Conseil de sécurité des Nations Unies de condamner cette nouvelle tentative de rébellion menée par les ex-éléments CNDP tout en réaffirmant l'intangibilité de la souveraineté de l'intégrité territoriale et l'indépendance du pays. Par la même occasion, la RDC invite le Conseil de sécurité de rappeler au Rwanda ses obligations internationales en lui exigeant de retirer immédiatement et sans condition les membres de ses forces armées qui se dissimuleraient dans les rangs de la rébellion.
Merci Samuel Kachak. Le Rwanda et la RDC réaffirment une fois encore leur désir conjoint de mettre fin aux troubles armés qui ont lieu ces jours dans cette partie frontalière entre les deux pays. Une réunion dans ce sens a regroupé lundi et mardi dernier à Kinshasa les ministres des Affaires étrangères, les chefs d'état-major généraux des armées congolaises et rwandaises, mais aussi les responsables des services de sécurité de ces pays. En conclusion, les délégations de ces deux pays ont publié une déclaration commune dans laquelle ils engagent leurs pays respectifs à faire une guerre sans fin à tous les groupes armés nocifs à l'est de la RDC, et notamment les FDLR. Le compte rendu avec vous, Dona Madimba.
À ce sujet, le communiqué conjoint de mardi déclare que les deux pays renouvellent, je cite, leur détermination à poursuivre les efforts jusqu'à éradication totale du groupe terroriste FDLR et de tous les autres groupes armés qui écument la région. La RDC et le Rwanda, toujours dans la déclaration de ce mardi, annoncent d'autres initiatives comme, là aussi je cite, celle de rendre opérationnelle la commission conjointe de vérification chargée notamment d'enquêter sur les suspicions de soutien extérieur aux mutins et autres éléments opportunistes. Et à ce sujet justement, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, déclare.
Au cours des dernières semaines, il y a tellement de rumeurs, on s'en sort plus. Nous sommes ici pour apporter notre soutien en tant que pays voisin aux efforts de paix et de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo.
Et du côté congolais, c'est au ministre Raymond Tshibanda de dire.
Le plus important pour la partie congolaise était que le gouvernement rwandais puisse savoir ce qui, de notre point de vue, est préoccupant.
La RDC et le Rwanda promettent donc de se revoir dans une semaine pour une évaluation. Ce sera le 28 juin prochain à Goma, capitale de la province où des violences armées sont en permanence rapportées.
Merci Dona Madimba. Monsieur le ministre Lambert Mende, cette lettre de la RDC a été transmise le 19 juin au Conseil de sécurité des Nations Unies pendant que la délégation rwandaise était ici à Kinshasa. Quel sens finalement la RDC donne-t-elle à cette démarche?
Mais je pense que la visite de la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui est une bonne chose, ne change en rien l'état de la situation que nous observons sur terrain. Il y a là une situation qui met en danger la sécurité de nos populations, qui menace l'intégrité de notre territoire, qui a des ramifications sur le territoire du pays voisin, et donc il est normal que nous puissions saisir les instances habilitées de la communauté internationale pour pouvoir intervenir afin de ramener la sécurité et la paix dans cette région, puisque le problème, contrairement à ce que l'on a dit, n'est pas congolo-congolais. Il y a des ramifications fortement régionales qui doivent être gérées par les instances habilitées au niveau international.
Alors, vous venez de le dire, à entendre les déclarations de la ministre rwandaise qui semble dire que c'est une affaire congolo-congolaise. Le président Paul Kagame l'a rappelé dans une interview qui est passée sur les télévisions internationales. Monsieur le ministre, on a plutôt l'impression que le Rwanda est venu pour assurer une médiation entre Kinshasa et le M23. C'est plutôt ça l'impression?
Non, c'est une fausse impression parce qu'à aucun moment nous n'avons reçu une proposition de médiation. Le problème est bel et bien congolo-congolais puisque le président du Rwanda lui-même dans sa communication du 19 juin dit quelque part que le cœur du problème réside dans l'activisme criminel des milices des FDLR. À moins de nous dire que les FDLR sont devenus congolaises, le problème sera alors congolo-congolais. Mais dans la mesure où tous nous savons qu'il s'agit d'un groupe armé rwandais opérant en République démocratique du Congo, sémant la mort et la désolation et menaçant la sécurité du Rwanda à partir du Congo, le problème ne peut pas être congolo-congolais. Lorsque nous savons aussi que des filières d'approvisionnement des forces négatives qui menacent les populations au Rwanda, qui s'attaquent à nos forces armées, existent en territoire rwandais, vous comprenez également que le Rwanda fait partie de la solution et ne doit pas s'abriter derrière je ne sais quelle incommunicabilité que nous avons pu gérer, qui n'existe plus entre les communautés du Kivu et le gouvernement de leur pays.
Monsieur le ministre, vous dites que le Rwanda fait partie de la solution. Ne ferait-il pas plutôt partie du problème?
Tous ceux qui font partie du problème font partie de la solution, cher ami. Forcément, ils font partie du problème, c'est pourquoi ils font partie de la solution.
Alors, quand la ministre rwandaise balaye d'un revers de la main toutes ces accusations, comment le gouvernement réagit-il?
Je pense qu'elle n'a pas balayé d'un revers de la main, elle a reçu des accusations fort documentées. Nous avons vu que la délégation rwandaise était ébranlée et les propos qui ont tenu et étaient tenus à Kigali le même jour sont un peu à contresens par rapport à ceux que nous avons entendus de la part de la délégation qui a promis de porter à la connaissance des plus hautes autorités rwandaises les preuves qui ont été mises à leur disposition. C'est dommage qu'en même temps au Rwanda, on se prononçait sans avoir attendu que la délégation ramène la moisson qui a été mise à sa disposition. Nous espérons que ceci est fait maintenant et qu'on pourra parler un peu plus sérieusement et un peu moins passionnément.
Alors, vous venez également de le dire, Monsieur le Ministre, les propos du président Paul Kagame étaient contradictoires par rapport à ce qu'a dit sa délégation ici. N'y a-t-il pas une certaine hypocrisie de la part du Rwanda dans ces pourparlers?
Bon, vous utilisez ce mot, nous nous disons que nous sommes perplexes. Nous avons difficile à comprendre, on se perd un peu en conjecture. Surtout, mais nous trouvons intéressant certaines informations que le président Kagame a données à l'opinion, notamment sur l'existence d'un complot de certaines puissances occidentales contre la personne d'un dirigeant au plus haut niveau de notre pays, le président Joseph Kabila. Nous avons été surpris d'apprendre que les donneurs de leçons de démocratie sont allés dans un pays étranger, étant eux-mêmes étrangers, pour solliciter l'intervention d'un chef d'État étranger pour changer de régime au Congo pendant que les Congolais s'apprêtaient à désigner leurs dirigeants par des élections. Je pense que c'est une leçon pour nous, Congolais, pour savoir que la démocratie du Congo se fera par nous-mêmes et pas par les étrangers.
Je reprends, Monsieur le Ministre, une partie, un paragraphe de la lettre de la RDC adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je cite, « Le territoire rwandais a servi à la préparation et à la perpétration d'une conspiration qui, après avoir commencé comme une simple mutinerie, évolue dangereusement vers un schéma de rupture de la paix entre deux pays de la région des Grands Lacs, remettant en cause les progrès accomplis en ce domaine depuis 2009. » Après cette lettre, Monsieur le Ministre, après ce balai diplomatique entre Kinshasa et Kigali, jusqu'où la RDC est-elle prête à aller?
Mais nous sommes dans le bon chemin de ramener le Rwanda à coopérer avec la République démocratique du Congo pour remettre de l'ordre dans cette région qui est perturbée par des éléments qui viennent essentiellement du Rwanda. Je cite d'abord les FDLR et les autres éléments, ce sont ces organisateurs des filières d'approvisionnement qui sont rwandais et qui sont trouvés même dans les rangs des forces armées de la République du Rwanda. C'est vers là que nous voulons amener nos voisins rwandais. Je pense que c'est tout à fait clair pour nous, c'est pourquoi nous impliquons aussi bien les chefs d'État de la région que le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Merci, Monsieur le Ministre. Professeur Arsène Mouaka, vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Vous venez de suivre toutes les réponses du ministre Lambert Mende. Professeur, quelle est votre analyse?
Oui, j'apprécie les efforts de compréhension du gouvernement du problème qui se passe à l'est du pays, puisque depuis un certain temps et même depuis quelques années, le gouvernement semblait ne pas avoir la bonne compréhension du problème de l'est du Congo, puisque le maître mot pour notre gouvernement, c'est que c'était les fils du Nord Kivu eux-mêmes qui étaient en train de troubler leur propre province. Et donc là, je suis quand même assez content que cette compréhension puisse évoluer et que le gouvernement franchisse finalement le Rubicon à soumettre le problème au Conseil de sécurité. Je ne peux que féliciter le gouvernement, mais je pense que les choses doivent aller au-delà de cette simple lettre, puisque le pays est en guerre, et quand on est à guerre, la logique est simple, il faut se préparer. Et donc, je semble croire que le Premier ministre, qui dans son programme pensait pouvoir construire une grande économie au pays et essayer de donner de l'emploi aux pauvres de l'Est pour mettre fin à la guerre, comprend très bien qu'il y a un État voisin qui ne veut pas du bien et qu'il serait plus important qu'elle se comporte en État, non seulement en essayant d'enrayer le désordre local, puisqu'il y a du désordre et une multitude de milices nationales et étrangères, mais aussi comprendre que les pays qui ne nous veulent pas du bien exploitent ces désordres, procèdent par ces désordres pour nous insécuriser davantage. Et donc, je félicite le gouvernement et je félicite sa compréhension finale de la situation de l'Est du pays. Elle encourage à ouvrir l'œil pour bien voir ce qui se passe à l'Est.
Alors, professeur, qu'est-ce que vous répondez à tous ces observateurs qui pensent que la RDC n'élève pas suffisamment et sincèrement sa voix?
Oui, il est très clair qu'on a vu au début de ces événements un gouverneur de province dire qu'il n'y avait rien, et qu'il n'y avait rien à Masisi, qu'il ne se passait rien, les gens ne se déplaçaient pas du tout. On a suivi successivement le gouvernement lui-même dire qu'il y avait quelques militaires qui étaient en insurrection, quelques déserteurs, ainsi de suite, négliger la situation. On a bien apprécié par la suite la frappe qu'il y a eu à Masisi, et donc notre armée a fait du beau boulot, mais par la suite, on a suivi qu'un ordre avait été donné pour que les choses s'arrêtent. Alors que notre armée était en train de bien évoluer, on a bien suivi qu'il fallait qu'elle s'arrête, qu'elle observe une trêve de 5 jours, et finalement, on était à la frontière, et donc c'était clair que de l'autre côté, les hommes traversaient et renforçaient finalement des hommes qui pourtant étaient faibles à Masisi, et donc je ne peux que féliciter le gouvernement et l'encourager.
Professeur, j'ai posé la même question au ministre Lambert Mende tout à l'heure. Pendant que la délégation rwandaise était ici, le président Paul Kagame au même moment faisait une déclaration qui allait pratiquement qui était l'inverse de ce que sa déclaration disait ici. Le ministre Mende a dit que le gouvernement était perplexe, et doit-on parler d'un manque de sincérité de la part de Kigali?
Oui, la tactique est connue, puisque successivement on a quand même connu des guerres depuis 96. Le Rwanda était toujours au centre de ces guerres. On connaît la tactique, c'est que on attaque et on dit qu'il n'y a rien et qu'il faut parler, il faut négocier, et donc on parle et on se bat, on parle et on avance. La tactique est connue, et je crois que le gouvernement est plein de ministres qui ont bien collaboré avec le Rwanda dans ces jeux-là, et j'espère qu'ils vont se mettre à la disposition de la République pour enfin mettre à nu la situation de cet État qui pratiquement nous gêne. Et donc on ne peut pas trouver d'autres mots pour le dire, et il va falloir que notre gouvernement ait un ton plus ferme que le ton que nous attendons, mais je crois quand même que porter l'affaire devant le Conseil de sécurité signifie enfin que le gouvernement a fait ce qu'il devait faire et qu'on doit aller au-delà, juste à faire ça correctement la guerre, organiser l'armée, arranger le front. Et donc c'est à ce niveau peut-être que l'on doit encore redoubler d'efforts.
Professeur, saisir le Conseil de sécurité maintenant, peut-on dire que la RDC s'est laissée duper trop longtemps?
Je crois que les rapports entre les États sont d'abord des rapports des forces. C'est-à-dire, il y a des rapports entre des États forts et des États faibles. Et ici, puisqu'il s'agit de la force brute, les rapports sont à terme d'une armée faible et d'une armée forte, ou alors d'une armée qui existe et d'une armée qui n'existe pas. Et donc, de ce point de vue, je ne pense pas que le problème soit celui de bien parler ou de mal parler. Le problème, c'est d'être en mesure de défendre ses frontières et de défendre l'intégrité du territoire. Et je semble croire que pendant 5 ans, notre gouvernement n'a pas pu nous constituer une armée capable de nous défendre correctement. C'est là que se trouve le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est là. On peut beau parler, on peut même bien parler, parce que nous savons très bien parler, mais je crois que l'essentiel ici, il s'agit de bouter dehors l'ennemi. C'est tout. Et donc, c'est à ce niveau qu'il y a réellement un problème.
Professeur Moïla Tchiembe, vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur, comment vous appréhendez, vous analysez cette lettre que la RDC a adressée au Conseil de sécurité de l'ONU?
Mais permettez-moi au départ de féliciter Monsieur le ministre Lambert Mende Omalanga, non seulement à titre personnel, mais au nom de l'extrême modération, sinon le professionnalisme dont le gouvernement congolais a fait preuve dans cette affaire avec le Rwanda. Vous savez, il est toujours arrivé que dans beaucoup de cas, que ce soit au Congo ou ailleurs, les médias pressent toujours les dirigeants pour porter l'accusation. Mais normalement, un gouvernement responsable ne peut pas se mêler à des accusations sans la moindre preuve. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a résisté jusqu'à la dernière preuve avant de porter une accusation quelconque contre le Rwanda. Or, aujourd'hui, la preuve est faite que le Rwanda est derrière cette insurrection, de gré ou de force, de loin ou de près. Et l'engagement que le gouvernement congolais, notamment la lettre qui a été adressée au Conseil de sécurité, dois-je préciser que cette lettre s'inscrit dans le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire le règlement pacifique des différends. Donc, il y a là, dans la volonté du gouvernement congolais, non pas d'aller fleur au fusil aux armes dans l'affrontement avec le Rwanda, mais de considérer que nous sommes dans une phase de règlement pacifique des différences, c'est-à-dire tout État membre de l'Organisation des Nations Unies peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire ou toute situation susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Donc, le gouvernement congolais, à mon avis, aujourd'hui, est dans son bon droit et il appartient maintenant au gouvernement de Kigali, du Rwanda, donc, d'apporter la preuve du contraire. Aujourd'hui, cette modération du gouvernement congolais est à son honneur parce qu'il ne sert à rien d'accuser un pays voisin. Les relations diplomatiques ont été rétablies entre le Congo et le Rwanda. Il est tout à fait normal qu'avant d'accuser, le gouvernement congolais ait accumulé la preuve. Or, aujourd'hui, la preuve est faite que le Rwanda est derrière l'insurrection. La balle est dans le camp du Rwanda et le Conseil de sécurité, comme lui demande le gouvernement congolais, est tenu à l'obligation d'une certaine clarification. C'est au Conseil de sécurité, maintenant, de demander des explications au Rwanda pour savoir jusqu'où le Rwanda veut aller dans ce qui paraît être une menace de rupture de la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et l'ensemble de la région des Grands Lacs.
Professeur, que répondez-vous à ces observateurs qui estiment que cette démarche de la RDC est amorcée tardivement?
Non, je répète qu'il ne s'agit pas de parler d'une réaction tardive. Un gouvernement responsable, disais-je, doit avoir la preuve. Il ne sert à rien d'accuser un pays sur les propos. D'ailleurs, le ministre Mende a eu l'intelligence de rappeler que la MONUSCO, au départ, n'avait pas elle-même la preuve que Kigali était derrière les insurgés. Et au départ, c'était les personnes appréhendées et présentées à la MONUSCO qui faisaient des déclarations. Il était tout à fait normal que le gouvernement de la République attende au-delà des propos de ces gens, pour ça, vous savez, les gens peuvent faire toutes les déclarations. On peut même imputer à un pays des délits ou des crimes qu'il ne connaît pas. Donc il était tout à fait normal que le gouvernement congolais attende les investigations en profondeur pour avoir la preuve de l'accusation. Maintenant que la preuve est faite, le Congo a agi. Je pense que ce ne serait ni trop tôt ni trop tard.
Et professeur, comment vous analysez la réaction du Rwanda? J'ai tout à l'heure posé la question au professeur Mwaka si le Rwanda était sincère et au ministre Mende si on ne pouvait pas décrier une certaine hypocrisie.
Non, il ne s'agit pas de l'hypocrisie. Le Rwanda est dans son fait. Vous savez, tous les États ont toujours minimisé leurs responsabilités du moment où ces responsabilités viennent de preuves apportées par la partie adverse. Il est de l'intérêt du Rwanda de montrer à la face du monde que le Rwanda a voulu renouer ses relations diplomatiques avec la République démocratique du Congo, que le Rwanda est de bonne foi, et s'il y a mauvaise foi, c'est de la part de la République démocratique du Congo. Vous avez entendu la ministre des Affaires étrangères parler de la rumeur, et le président Kagame lui-même a enchaîné pour dire que l'affaire est une affaire congolo-congolaise. Mais pourquoi invoque-t-il alors l'FDLR? Les FDLR ne sont pas des Congolais. Donc il y a là, c'est un langage habituel du Rwanda, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Rwanda est l'un des pays policiers de la région de Grand Lac. Rien ne peut se faire au Rwanda en dehors de la connaissance des services secrets, des services de renseignement, de l'armée et de la police. Donc que des individus soient entraînés, équipés pour aller faire la guerre dans un pays voisin, le Rwanda ne peut pas prétendre ne rien savoir. Ça ne peut que faire rire dans les chaumières à des gens qui ne connaissent pas ce que le Rwanda. Il y a là tout à fait des propos irresponsables de la part du Rwanda pour cacher sa responsabilité.